France Culture.
Rebonjour Thomas Cluzel.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. La France accueille depuis ce matin un sommet de la coalition des volontaires, un rendez-vous aux enjeux majeurs pour l'Ukraine, un moment de vérité pour l'Europe face au rapprochement russo-américain, mais aussi, on le verra, pour Emmanuel Macron en chef de guerre. L'actualité en France, c'est aussi le déficit public qui atteint 5,8% du PIB en 2024. On reviendra également sur la condamnation ce matin à 5 ans de prison ferme de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. On s'intéressera aussi à la nouvelle charge du président américain Donald Trump qui annonce 25% de droits de douane supplémentaires sur le secteur automobile. Enfin, avec notre invité aujourd'hui, Laurent Richard, directeur du consortium Forbidden Stories, on détaillera cette nouvelle enquête internationale consacrée aux journalistes palestiniens tués à Gaza. Face aux écueils, sinon aux illusions de la diplomatie américaine, mais aussi face à l'obstination idéologique meurtrière de la Russie à mener sans relâche sa guerre d'invasion impérialiste, comment continuer malgré tout à offrir des garanties sécuritaires à Kiev? C'est pour tenter de répondre à cette crise existentielle aiguë qu'une trentaine de dirigeants sont réunis depuis ce matin à Paris. L'occasion notamment de discuter directement avec le président Volodymyr Zelensky, lui aussi sur place, de la manière dont il pourrait renforcer leur soutien à Kiev. Alors ce sommet dit de la coalition des volontaires à l'initiative de la France et de la Grande-Bretagne, soit les deux puissances nucléaires du vieux continent, et le troisième du genre, l'occasion renouvelée pour Emmanuel Macron de tenter de mobiliser les bonnes volontés. Est-ce que depuis son arrivée à l'Elysée, c'est vrai que le chef de l'État a souvent été critiqué pour sa façon parfois déroutante de conduire justement la politique étrangère. Il y a encore d'ailleurs l'ex-premier ministre Dominique de Villepin estimait que le président privilégiait une approche trop axée sur, je cite, la diplomatie de la papouille pour séduire ses interlocuteurs et d'ajouter la diplomatie, c'est avant tout de la constance. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
La constance, c'est justement ce que revendique de son côté l'Élysée, et tout particulièrement Rosalie lorsqu'il s'agit de défendre donc le président bien plus à l'aise dans son costume de chef de guerre que sur la scène intérieure.
L'Élysée insiste, c'est lui qui est à l'initiative, c'est Emmanuel Macron. C'est parce qu'il a provoqué la première réunion mi-février qu'il y a eu la deuxième à Londres au début du mois et cette troisième aujourd'hui à Paris en est la suite. 31 délégations sont autour de la table, c'est plus que le mois dernier, et elles sont représentées par leurs leaders, souligne encore un conseiller qui y voit la preuve de la crédibilité du chef de l'État. C'est lui toujours qui a échangé avec le président américain Donald Trump en amont de ce sommet, lui qui a discuté avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky hier soir, lui qui répondait récemment à des questions sur les réseaux sociaux pour expliquer les enjeux du moment, lui qui recevait les principaux industriels de l'armement il y a deux semaines. Emmanuel Macron ne parle quasiment plus que d'Ukraine et d'Europe, dans un costume international, pas à l'abri de lui rendre service au niveau national. Le politologue Christophe Boutin, professeur de droit public à l'université de Caen.
Ces récentes déclarations, parfois un peu inquiétantes, sur les risques encourus en France, les conséquences de ce risque, le placent dans une nouvelle situation et font du bien à son image. C'est l'effet drapeau. C'est vrai que lorsque vous avez la définition d'un ennemi clairement identifié, les gens vont d'abord se ressouder entre eux contre l'ennemi commun et vont plus facilement, parce qu'il y a un risque, qu'il y a une peur, accepter de suivre le titulaire du pouvoir.
Et si l'effet n'est pas massif à ce stade, en tout cas dans l'opinion, cela permet aussi à Emmanuel Macron de se réapproprier plusieurs éléments de politique intérieure. Il tire la pelote, explique un de ses proches. Il remet le nez dans le budget puisqu'il y a l'effort de défense. Il réfléchit sur le service civique, puisque c'est lié à la guerre. Il réunit certains ministres, leur explique ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Un chef des armées bien décidé, visiblement donc, à profiter du moment pour tenter de reprendre la main sur ses propres troupes.
Merci Rosalie Lafarge. Alors entre les menaces russes d'un côté et le revirement américain de l'autre, c'est donc dans ce contexte géopolitique incertain où les équilibres mouvants obligent aujourd'hui à des transformations stratégiques radicales que le gouvernement français cherche à présent des moyens supplémentaires pour financer l'augmentation de ses dépenses militaires. Autant dire un véritable cauchemar au regard de l'état actuel des finances publiques. Ce matin, l'INSEE a dévoilé le niveau d'endettement et de déficit public de la France en 2024 et c'est tout simplement l'un des plus importants, comprenez l'un des pires de la zone euro. Mélanie Kuzelevich, bonjour.
Bonjour.
Le déficit public atteint 5,8% du PIB en 2024. C'est mieux que ce qui avait été anticipé. Pour autant, ça n'est pas une bonne nouvelle, prévient ce matin le ministre de l'économie, Éric Lombard.
Oui, le déficit public frôle les 170 milliards d'euros en 2024, soit, vous l'avez dit, 5,8% du produit intérieur brut. C'est en effet un peu mieux que les 6% anticipés, mais c'est encore très loin de l'objectif des 4,4% fixé fixé à l'automne dernier. Un déficit encore très haut, car en 2024, les recettes sont en hausse, mais pas autant qu'espéré. Et les dépenses accélèrent, notamment pour les prestations sociales, après l'indexation des salaires sur la forte inflation de 2023 et la revalorisation des pensions de retraite en janvier dernier. L'objectif du gouvernement, c'est de repasser sous la limite européenne des 3% en 2029, mais avant, il compte ramener le déficit à 5,4% du PIB en 2025. En parallèle, il faut également trouver de l'argent supplémentaire pour financer l'augmentation des dépenses militaires justifiées par la menace russe en Europe et le revirement des États-Unis. Un problème bien difficile à résoudre, à en croire la porte-parole de l'exécutif Sophie Primas, interrogée sur Public Sénat.
Ce budget 2026 qui va être un cauchemar, tant les difficultés financières sont importantes. Répondre à la baisse du déficit de l'État, de passer de 5,4 à 4,7, plus faire face aujourd'hui aux nouveaux challenges qui sont des challenges de réarmement et d'investissement dans notre industrie de la défense, ce sont des difficultés qui s'additionnent.
Et afin de prévenir un nouveau dérapage, le Premier ministre François Bayrou réunira pour la première fois le 15 avril prochain un comité d'alerte associant élus, partenaires sociaux et collectivités locales. Une conférence qui permettra de partager la situation budgétaire du pays avec toutes les parties prenantes, explique le ministre de l'Économie Éric Lombard. En plus du déficit public, la dette est aussi en hausse. Elle a augmenté de 202,7 milliards d'euros sur l'ensemble de 2024, selon l'INSEE, pour atteindre 113% du PIB, soit plus de 3 300 milliards d'euros.
Merci Mélanie Kuzilevic.
Quelle peine le parquet financier réclamera-t-il contre Nicolas Sarkozy ?
Au procès des soupçons de financement libyen de sa campagne victorieuse de 2007, l'accusation entre aujourd'hui dans son troisième et dernier jour de réquisitoire. Le montant des sanctions contre l'ancien chef d'État et 11 autres prévenus est attendu en fin de journée. Réquisition attendue également aujourd'hui au procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle. Hier, le troisième jour d'audience aura une fois de plus révélé un face-à-face d'une tension inouïe au cours duquel les deux plaignantes auront dû résister plusieurs heures durant aux assauts de l'acteur, lequel continue à nier le moindre geste répréhensible comme la résurgence brutale d'un monde d'avant MeToo.
Pour lui, le verdict est tombé.
Boualem Sansal a été condamné ce matin à 5 ans de prison ferme. Alors rappelons que l'écrivain franco-algérien, aujourd'hui âgé de 80 ans et atteint d'un cancer, s'était récemment retrouvé au cœur d'une grave crise diplomatique après qu'Emmanuel Macron eut annoncé son soutien à un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le territoire disputé du Sahara occidental. Les autorités algériennes y avaient vu un alignement de Paris sur la position de son grand rival régional. Et de la même manière, Alger avait décidé donc accusé l'écrivain d'atteinte à l'intégrité du territoire pour avoir repris à son compte dans un média français la position du Maroc. Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, l'avocat français de Boualem Sansal appelle le président algérien à l'humanité.
Oui, Boualem Sansal qui s'est présenté sans avocat ce matin au tribunal correctionnel de Dar El Baïda dans la banlieue d'Alger, vêtu d'une veste beige foncée, d'un pull gris, cheveux coupés courts. Il n'y avait pas de trace de fatigue sur son visage, nous a rapporté un témoin présent sur place. L'examen du dossier par le juge a duré une dizaine de minutes. L'écrivain franco-algérien est resté silencieux tout au long de l'audience et n'a pas réagi à l'énoncé du verdict. Alors, outre la peine de prison de 5 ans, il a été condamné à une amende de 500 000 dinars, soit environ 3 500 euros. Maintenant que la justice algérienne a rendu sa décision, il y a deux options qui se dessinent. Boualem Sansal peut faire appel du jugement dans les 10 jours, nous a expliqué maître Mohamed Bardadi, le bâtonnier d'Alger. C'est une décision qui lui appartient, il a ajouté. Les défenseurs et les proches de Boualem Sansal, eux, espèrent une autre issue, autrement dit une grâce du président Tebboune, compte tenu de son âge et de sa maladie. Le calendrier y est d'ailleurs favorable, avec l'Aïd el-Fitr lundi prochain, qui marque la fin du Ramadan. Il est de tradition que le président gracie des prisonniers à cette occasion.
Merci Christian Chéneau.
Jusqu'où ira-t-il ?
La nuit dernière, une nouvelle étape a été franchie dans la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. Washington annonce des droits de douane supplémentaires de 25% pour les voitures qui ne sont pas fabriquées sur le territoire américain. La mesure entrera en vigueur dès la semaine prochaine. Alors forcément, partout, l'annonce fait bondir, y compris d'ailleurs chez les constructeurs américains eux-mêmes, mais aussi les consommateurs qui pourraient payer entre 5 000 et 10 000 dollars supplémentaires les véhicules concernés, qui représentent tout de même la moitié des ventes dans le pays. Ce matin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit regretter profondément la décision américaine. Et puis, en Allemagne, là-bas, c'est carrément la douche froide. Les constructeurs automobiles parlent même d'un signal fatal. Les précisions depuis Berlin de Sébastien Baer.
Ces droits de douane vont coûter cher, très cher aux constructeurs allemands car les États-Unis représentent le premier marché à l'export pour les voitures made in Germany. L'année dernière, 445 000 BMW, Mercedes et Volkswagen ont été vendus sur le marché américain, soit 15% de la production allemande, le tout pour un montant de 25 milliards de dollars. Les constructeurs allemands exploitent des usines aux États-Unis, ce qui leur permet d'échapper à ces surtaxes, mais la plupart de leurs modèles haut de gamme sont exportés d'Allemagne ou d'Europe de l'Est. Audi et Porsche, par exemple, fabriquent toutes leurs voitures hors des États-Unis. Ces droits de douane, c'était ce que redoutait le plus la puissante fédération des constructeurs automobiles allemands. Sa présidente, Hildegard Müller, évoque une spirale protectionniste qui ne fera qu'augmenter le prix des voitures. Voilà en tout cas qui ne va pas arranger les affaires des constructeurs allemands, déjà confrontés à la rude concurrence chinoise, au coût élevé de la main-d'œuvre et au ralentissement du commerce mondial. Robert Habeck, qui est encore ministre de l'économie pendant quelques semaines, estime qu'il ne faut pas céder face aux États-Unis et il réclame une réponse ferme de la part de l'Union européenne.
Benjamin Netanyahou a accusé de saper la démocratie dans son pays. Depuis la semaine dernière, des milliers d'Israéliens participent chaque jour à des manifestations antigouvernementales organisées par une très large coalition de groupes opposés à l'action du Premier ministre. Et ce n'est sans doute pas l'adoption par le Parlement ce matin d'une loi polémique qui devrait les convaincre d'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'en renforçant l'influence du pouvoir politique dans la nomination des juges, ce texte menace à présent de faire sauter les garde-fous à l'action du pouvoir législatif et exécutif, voire de faire basculer l'État hébreu vers un système illibéral. Thibault Lefèvre, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Jérusalem, à tout le moins le vote de ce matin témoigne de la volonté donc de Benjamin Netanyahou d'aller de l'avant avec son projet de réforme de la justice qui avait déjà provoqué d'ailleurs l'un des mouvements de contestation populaire les plus importants de l'histoire du pays avant le déclenchement de la guerre. Quoi qu'il en soit, Thibault, l'opposition a donc immédiatement saisi la Cour suprême.
Et les dossiers s'empilent sur les bureaux des magistrats de la Cour suprême qui est, je vous le rappelle, le seul contre-pouvoir fort. Les juges vont donc devoir, dans les prochains jours, déterminer la légalité des renvois du patron des services secrets intérieurs et de la procureure générale, du retour du suprémaciste Itamar Ben-Gvir au gouvernement, et donc décider si cette nouvelle loi votée ce matin est conforme ou non à l'esprit des textes fondamentaux de la démocratie israélienne. Situation inédite pour un régime bousculé comme jamais, selon le professeur de droit constitutionnel Claude Klein.
Si effectivement le gouvernement parvenait à faire nommer des juges à sa botte, les procès contre les hommes politiques, il y en a de plus en plus, y compris Netanyahou, seraient remis en cause. C'est une des mesures les plus graves que ce gouvernement ait prise. On va vers une autocratie et c'est extrêmement dangereux.
Alors ça, c'est sur le plan du droit. D'un point de vue politique, la loi votée ce matin est le premier étage d'un ensemble de textes qui doit aboutir à l'affaiblissement du pouvoir de la Cour suprême au profit de l'exécutif. Les opposants à Benjamin Netanyahou pensaient cette réforme de la justice enterrée après les manifestations monstres du début de l'année 2023. 2 ans après, elle revient au cœur des débats alors que le gouvernement s'appuie au Parlement sur une majorité plus forte que jamais.
Merci Thibault Lefèvre. Alors après que 50 000 Palestiniens ont été tués dans la guerre totale menée par l'armée israélienne en représailles aux attaques barbares du 7 octobre, la vie a de nouveau quitté le visage de 855 Gazaouis depuis que l'État hébreu a décidé unilatéralement de rompre le cessez-le-feu avec le Hamas. C'est du moins le dernier bilan annoncé ce matin par le ministère de la Santé du mouvement islamiste. Et parmi tous ces morts, des hommes, des femmes, des enfants, on trouve plus de 170 journalistes. Alors faut-il pour autant en déduire que les journalistes seraient délibérément ciblés par l'armée israélienne pour rendre ainsi impossible la documentation de ce qui se déroule dans l'enclave palestinienne? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Laurent Richard, directeur du consortium de journalistes Forbidden Stories. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Le 25 juin de l'année dernière, vous aviez publié donc un premier volet de ce que vous intitulez Gaza Project, afin de montrer que le nombre élevé de journalistes morts dans l'enclave depuis le 7 octobre découlait en partie d'un ciblage spécifique par l'armée israélienne, et vous poursuivez aujourd'hui avec la publication de 4 nouvelles enquêtes. Est-ce qu'il faut en déduire que rien n'a changé ?
Oui, rien n'a changé, sauf si peut-être les choses se sont aggravées. Donc il fallait absolument poursuivre ce projet. Donc à nouveau, on a coordonné un large effort journalistique d'investigation avec 12 médias internationaux partenaires pour enquêter à la fois sur les conditions dans lesquelles ces journalistes ont été tués. Certains ont trouvé la mort dans le bombardement de leur immeuble. D'autres ont été plus spécifiquement visés, parfois par des drones. Et donc avec un travail de modélisation, avec un travail d'open source, avec des témoignages sur le terrain, et notre rédaction et les rédactions partenaires, on a pu effectuer ce travail-là précisément sur les conditions dans lesquelles ils ont trouvé la mort.
Alors vous l'évoquiez brièvement à l'instant, l'un des quatre articles publiés ce matin retrace comment un journaliste de 24 ans au moment des faits, Fadi Al-Waidi, a été frappé au cou, c'était le 9 octobre, par un tir de drone alors qu'il portait un pare-balles sur lequel la mention presse était écrite en grandes lettres. Comment avez-vous établi d'abord le déroulé des événements et puis qu'est-ce qui permet de dire qu'il aurait été sciemment visé comme journaliste? Comment est-ce qu'on apporte la preuve de cela?
Alors ça a été une longue investigation. La première chose c'était de savoir dans quelles conditions ça s'était passé. Et pour le savoir, on a rassemblé des documents vidéo, des photos et des vidéos inédites qui permettent de mieux comprendre comment les faits se sont déroulés. On a aussi fait de la modélisation 3D pour savoir d'où le tir venait. On a aussi consulté des experts médicaux pour savoir quelle avait été la trajectoire balistique au vu de l'impact sur le corps de Fadi Al-Waidi. On a vu que la balle avait été tirée d'un point élevé. On a vu aussi, et on a recueilli des témoignages qui confirmaient tous que des drones survolaient à ce moment-là la zone. On a pu établir aussi avec une certitude absolue que Fadi Al-Waidi ne se trouvait pas dans une zone qu'il fallait évacuer. Il était dans une zone où les combats ne devaient pas avoir lieu officiellement selon l'armée israélienne. Et donc c'est toute une série de témoignages qui nous ont permis effectivement de rassembler ce faisceau d'indices qui laisse entendre qu'il a été sciemment visé alors même qu'il était identifié comme journaliste.
Dans une autre enquête, votre consortium montre également que les rares journalistes utilisant des drones pour filmer ont subi de très nombreuses attaques. Diriez-vous qu'ils sont plus spécifiquement ciblés encore aujourd'hui? Si oui, pourquoi?
Oui, ils le sont parce que dès que l'armée israélienne voit un drone, elle reçoit pour ordre de tirer. D'ailleurs, on révèle aussi dans cette enquête des documents auxquels on a eu accès où le ministère des officiels israéliens s'inquiète justement de cette politique-là. Quand ils voient un drone, ils tirent et certains fonctionnaires s'interrogent sur justement allons-nous respecter le droit de la guerre vu que peut-être ces drones sont opérés par des civils qui peuvent être des journalistes ou des activistes. Et on a vu un nombre effectivement de dronistes, de journalistes dronistes. Certains d'ailleurs avaient travaillé avec nous pour filmer les images et Gaza d'en haut et qui ont été assassinés. Filmer Gaza par les drones, quand on est journaliste, est extrêmement important parce que c'est une façon de rendre compte de la destruction. Aujourd'hui, les Nations Unies disent que 90% des unités de logement ont été détruites. 95% des infrastructures hospitalières sont totalement endommagées. Donc on a essayé aussi, en plus de cette enquête, de rassembler ces images filmées par des drones, et on peut le voir sur le site de Forbidden Story, ça donne une précision incroyable sur l'étendue des dégâts.
Laurent Richard, je crois qu'aucun responsable israélien n'a jamais été désigné jusqu'à présent pour la mort d'un journaliste. Votre article montre même l'existence d'un département juridique au sein de l'armée et qui, plutôt que de permettre donc d'éclaircir les responsabilités dans le cadre d'opérations militaires, agit comme une façon pour Israël de se soustraire aux poursuites internationales. C'est bien cela?
Oui, ça c'est une enquête menée par Marina Abreu chez nous avec un grand nombre de partenaires qui établit que cette cellule au sein de l'état-major militaire israélien créé en 2014, en fait, enquête sur des crimes de guerre, mais la CPI ne peut pas se saisir dès l'instant où un crime est actuellement poursuivi sur le territoire national. Or, sur 664 demandes et dépôts de plaintes, près de 80% ont été classés sans suite et 0,17% d'entre eux ont donné lieu à des poursuites. Et on voit en fait aussi toute une série de tactiques utilisées par le gouvernement israélien et par le ministère de la Défense pour faire en sorte que la CPI ne puisse pas se saisir de ces cas-là, voire même aussi discréditer des organisations, des ONG, les qualifier voire même de terroristes pour les empêcher d'agir et pratiquer aussi la désinformation à l'endroit de ces mêmes organisations. Donc c'est tout un ensemble de tactiques qui empêchent d'obtenir justice et réparation.
Merci Laurent Richard, merci directeur, je le rappelle, du consortium de journalistes Forgotten Stories, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et merci également à Loïs Guérin pour la préparation. Accusé d'avoir tenté de renverser les résultats de l'élection présidentielle, Jair Bolsonaro sera bel et bien jugé pour tentative de coup d'État. Ainsi en ont décidé hier à l'unanimité les juges de la Cour suprême. Jamais au Brésil, encore hanté par le souvenir de la dictature militaire, un ancien président n'avait été poursuivi pour des faits d'une telle gravité. L'ex-dirigeant d'extrême droite risque jusqu'à 43 années de prison. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi ensoleillé sur la majeure partie du pays, à l'exception des Pyrénées. Quant aux températures, elles seront comprises entre 14 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.